La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Bruxelles Libre Culture, c'est le nom d'un festival qui va animer la capitale pendant tout le mois de mars. Pourquoi, comment, avec qui, on en parle dans notre émission ce soir.
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin.
La diversité culturelle sera donc à l'honneur ce mois-ci à Bruxelles pour la première édition du festival Bruxelles Libre Culture. Un festival qui se déroule sur le campus du Solbosch de l'Université Libre de Bruxelles. Objectif, convier la ville sur les chemins de l'université, animer le campus avec ceux et pour ceux qui le traversent tous les jours, mais aussi mettre en avant de jeunes talents, de jeunes étudiants. Et justement, jeunes talents, nous avons le plaisir d'en accueillir un en studio. Martin Pilette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes étudiant en photographie à l'INRACI en Réto, et c'est l'une de vos photos qui a été choisie comme affiche du festival. J'imagine que c'est une belle reconnaissance pour vous.
Oui, bien sûr, pour un photographe, c'est vraiment chouette de pouvoir participer à une exposition comme ça.
Et peut-être juste un mot sur cette photo, vous pouvez nous la décrire un peu, dire dans quel contexte elle a été prise?
Le contexte où elle a été prise, au tout début, on a eu comme proposition une exposition sur la diversité. C'était pas tout à fait facile d'aborder ce thème parce que c'est à la fois précis et très vague. Et donc je pense qu'on l'a chacun abordé de manière très personnelle. Et moi, là-dedans, j'ai mis un petit peu dans cette photo, qui est un portrait d'un jeune modèle de 17 ans. J'ai mis un petit peu ma personnalité, vraiment ce qu'était pour moi la diversité. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai abordé cette photo et que maintenant elle est présente.
On aura l'occasion de parler de cette exposition plus tard dans l'émission. Alors, à vos côtés en studio également, Anthony Spiegeler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien de l'art, commissaire d'exposition et collaborateur pédagogique en charge d'exercices de médiation muséale à l'ULB. Et c'est vous notamment qui avez pensé ce festival. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Denis Meyers, bonsoir.
Alors, bonsoir.
Denis Meyers, vous allez rester avec nous quelques minutes par téléphone. Alors, est-ce qu'il faut encore vous présenter? On peut dire que vous êtes un artiste urbain et multiple. C'est comme ça que vous vous décrivez. On vous connaît pour vos graves, vos fresques murales, mais aussi vos stickers en forme de visage. Et juste un dernier mot, c'est que à la fin de l'émission, on contactera un autre artiste sculpteur, cette fois-ci Mario Ferretti. Alors Anthony Spiegeler, d'où est venue l'idée d'organiser un festival culturel sur un campus universitaire?
Dans un premier temps, il y avait la volonté du vice-recteur aux affaires culturelles de créer une activité culturelle sur le campus, dans le cadre de l'année académique. Alors il y a eu un appel qui a été lancé à l'ensemble de la communauté universitaire et on y a répondu avec différents intervenants. Ce projet a été retenu et puis après il a été fusionné avec d'autres projets. Et c'est pour cela que, en creux de l'ensemble de l'organisation du festival, on a vraiment un partenariat avec la commission culturelle de l'ULB notamment, parce que le président de la commission culturelle, Florian Guilin, est le co-organisateur du festival. Donc la volonté était vraiment de créer un festival artistique ouvert, avec vraiment toutes les formes de culture représentées le temps d'un instant sur le campus.
Et c'est ça du coup qui fait sa particularité, parce qu'on sait que Bruxelles accueille pas mal de festivals, mais qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité de celui-ci?
C'est le fait qu'il soit complètement libre, c'est-à-dire qu'il y a une libre expression, il y a une diversité aussi de la forme de création artistique. Donc c'est pas un festival de sculpture, ni de peinture, ni de musique, il y a tant des concerts que des productions cinématographiques, que du théâtre, que des installations in situ. Donc l'objectif c'est vraiment de se dire que en creux des déambulations quotidiennes, donc sur le campus, il n'y a pas que des étudiants à l'université, il y a également des membres de personnel, il y a aussi des touristes, il y a des personnes qui viennent ça et là en fonction certaines réunions notamment, et donc c'est de pouvoir embellir le campus, d'avoir donc une force qui est celle qui est inscrite au sein de la qualité de l'université, mais qu'en plus on fasse appel à des artistes reconnus pour pouvoir embellir les espaces.
Alors justement, des artistes reconnus, c'est Denis Meyers. Alors Denis Meyers, vous avez accepté donc de participer au festival. Vous serez présent à la soirée d'ouverture lundi, mais aussi plus tard dans le mois pour graffer notamment des citations à différents endroits du campus. Qu'est-ce qui vous a plu dans la démarche de ce festival, Denis Meyers?
La diversité pour moi est un terme relativement important dans mon travail et dans les valeurs qui sont les miennes et les valeurs que notamment je donne à mes enfants. Et puis voilà, j'ai un attachement particulier à l'ULB du temps de mes études. Alors même si j'ai pas fait mes études à l'ULB, j'y étais souvent. J'ai eu beaucoup d'amis qui y étaient. Et quand on m'a proposé de participer à ce projet, et quand on m'a un peu expliqué le principe de manière générale, comme Monsieur De Spiegeler l'expliquait à l'instant, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça chouette. Moi qui travaille très souvent seul, sur des fresques ou sur différents projets. Là, dans ce cadre aussi, pour m'inscrire dans quelque chose de plus global et avec d'autres disciplines, je trouvais ça relativement intéressant.
Mais alors, justement, une des particularités, c'est qu'il y a des artistes confirmés, connus, mais aussi des jeunes artistes, des jeunes étudiants, comme on a Martin Pilette en studio. Est-ce que pour vous, Denis Meyer, c'est aussi une forme de partage, peut-être avec les plus jeunes, une forme de transmission de savoir?
Alors, transmission de savoir, si c'est possible, avec grand plaisir. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours faisable. Je verrai comment ça se passe, mais pour moi, ça a toujours été important alors déjà, quand j'étais étudiant, c'était important pour moi de pouvoir rencontrer, discuter, partager avec des gens plus âgés, plus expérimentés ou plus connus. Maintenant que je me trouve, entre guillemets, un peu entre les deux ou peut-être plus d'un côté que de l'autre, ça me semble tout à fait naturel, en tout cas pour moi, de pouvoir partager mon temps, mes connaissances autour d'un verre, autour d'une fresque, autour d'une discussion avec des plus jeunes ou avec des moins expérimentés artistes qui soient d'un domaine ou d'un autre.
D'accord. Mais du coup, je reviens vers vous, Martin Pilette, en studio. Donc, le fait pour vous de partager l'affiche comme ça avec des artistes de renommée nationale ou internationale, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous stimule? Est-ce que ça vous donne envie?
Oui, bien sûr, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir une exposition comme ça, aussi variée, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'occasion vraiment d'être avec plein d'artistes comme ça, aussi variés, on disait du théâtre, tout ça. Donc ça va vraiment être une rencontre, en plus vu que ça dure un mois, on va avoir l'occasion de pouvoir y aller plusieurs fois, d'avoir d'autres rencontres, des gens peut-être qui regardent notre photo, sans qu'ils sachent vraiment que ce soit nous qui l'ayons fait. Et d'avoir les avis comme ça, c'est chouette. Et inversement pour les autres artistes, à mon avis.
Mmh. Ouais, donc d'avoir à la fois des rencontres avec d'autres artistes, mais aussi avec le public, c'est comme ça que vous dites. Denis Meyers, on dit souvent que la transgression fait partie du street art. Ici, le fait que ce soit finalement autorisé, que vous ayez l'accord de l'université pour peindre sur les murs du campus, est-ce que ça change quelque chose à votre démarche, à vous?
Alors, de manière très personnelle, moi, je n'ai fait que très 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 rarement des interventions illégales d'une certaine surface. Alors c'est clair que vous parlez tantôt de mes autocollants n'ont jamais été collés de manière légale, mais ça reste des interventions quand même relativement plus petites et moins impactantes. Après moi, le travail de commande est très intéressant pour moi parce que du coup ça se fait dans un contexte qui est relativement qui est même totalement détendu, mais je garde quand même une totale liberté et dans le cadre du live painting que je ferai le lundi 5 dans le bâtiment K, qui est d'ailleurs ouverture et vernissage qui est ouvert à tout le monde, je vais travailler avec des mots qui sont les miens, avec des mots qui m'auront été proposés par les différents organisateurs du festival Bruxelles Libre Culture. C'est aussi un échange, c'est aussi un partage, c'est aussi une rencontre. Je travaille pas tout seul dans mon coin avec les mots que j'ai décidé d'utiliser, mais c'est plutôt un échange d'idées, un échange de points de vue, et c'est le résultat de ces brainstorming et de ces réflexions que je peindrai sur un support lors de la soirée d'inauguration, lors du vernissage.
Ouais, donc on vous retrouvera effectivement lundi 5 pour la soirée d'inauguration, et puis on vous retrouvera aussi un peu plus tard dans le mois, vous grafferez toute une série de citations, dont une citation qui a été proposée par le Centre d'Action Laïque, qui est Libre Ensemble, le titre de notre émission. Donc on verra ce que vous en faites à ce moment-là.
On verra, en effet.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans notre émission. On va vous laisser parce que je pense que vous avez d'autres occupations. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci.
Bonne fin d'émission, au revoir.
Alors, je voudrais revenir avec vous, Anthony Spiegeler, sur les différents objectifs du festival. J'ai vu qu'un des objectifs, c'était d'intégrer la ville à l'université, enfin de faire des liens entre la ville et l'université. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore un trop grand fossé, justement, entre la ville, ses citoyens et ce qui se passe sur le campus?
Je pense qu'en tout cas, il y a actuellement véritablement une réflexion et une volonté d'inscrire l'université au sein de la ville. Donc de se dire que les chercheurs, les professeurs, les étudiants ne sont pas dans une tour d'ivoire. On n'est pas caché quelque part sur le campus, et peut-être l'impression de cocon qu'on peut avoir quand on est au sein de l'université n'est pas véritablement réelle. Se dire que ici, on a un tissu qui est organisé avec des anciens, notamment, avec des anciens de l'ULB qui souhaitent participer à ce genre d'activité. Et donc les anciens, ils sont plus au sein de l'université, ils sont dans la ville. Donc en fait, naturellement, les choses se font et je pense qu'on avance vraiment en ce sens. Oui.
Et c'est montré aussi que l'université fait partie de la société, fait partie de la ville à part entière.
Elle fait tout à fait partie de la société. Justement, je pense que le thème académique qui est choisi par l'équipe rectorale cette année, qui est diversité, je pense que la volonté de placer vraiment la richesse de la diversité, c'est un peu un reflet, un miroir de ce qu'il y a au sein de la ville. L'université est un miroir de la ville.
Mmh. Ah bah, diversité, ça me permet de rebondir sur le titre de l'exposition qui est proposée par les étudiants de l'INRACI. Donc, diversité, c'est vraiment le titre de votre expo photo. Donc, il y aura des photos de vous, Martin Pilède, mais des photos d'autres étudiants de l'INRACI. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce terme diversité ?
Justement, au début, ça a été le plus compliqué pour un peu tous les élèves et les participants de l'exposition photographique. C'est d'être vraiment, je veux dire, inspiré par ça, parce que, comme je dis, c'est très vague et à la fois très précis. Et donc, on a eu un petit peu difficile au début, mais ensuite, ça s'est vraiment imposé à chacun en fonction de peut-être nos vécus, nos goûts, tout ça. On a vraiment été chacun chercher dans notre personnalité ce qu'on voulait transmettre. Et grâce à ça, on a fait deux projets. On a fait un projet personnel où on va être entre 10 et 15 à être exposé, et une autre partie, c'est le projet Avedon. Ce sera un tout grand mur avec vraiment des portraits, au plus simple en noir et blanc, des gens dans la ville. Et on a été donc dans la ville chercher plein de personnalités différentes. Et donc avec ça, on aura un énorme mur avec toutes ces personnalités. C'est vraiment assez intéressant parce que on a juste une photo et pourtant les photos parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin vraiment d'un texte qui les accompagne ou quoi. Les photos vraiment parlent d'elles-mêmes, mais elles disent pas la même chose à chacune des personnes. C'est ça qui est assez intéressant.
Alors, chacun peut les interpréter un peu différemment en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il y voit. Pour vous, la photographie, c'est que ça représente quoi ? C'est quelque chose qui est en vous depuis toujours ? C'est une passion qui est née plus tard ?
Depuis que je suis jeune, ma mère a toujours eu un appareil sur elle et tout, donc j'ai vraiment grandi un petit peu avec ça. Mais maintenant, depuis 6 ans, j'ai eu mon propre appareil. J'ai commencé, j'ai jamais eu vraiment besoin de réfléchir. J'ai eu cet appareil et j'ai jamais arrêté. Je me suis jamais senti obligé de faire des photos ou quoi. C'est vraiment, ça m'aide vraiment, je veux dire, dans la vie de tous les jours. C'est un prolongement, je veux dire, de moi-même dans ce que je veux. Dans ce que je ressens, dans ce que je veux faire ressentir. Donc voilà,
Vous travaillez surtout sur des portraits ou enfin voilà, c'est vraiment votre manière de faire, c'est plutôt les portraits ?
Voilà, à l'heure actuelle, moi, c'est vraiment les portraits. Il me faut quelque chose d'humain dans la photo, je veux dire, pour que moi, je ressente quelque chose personnellement. Mmh.
Alors, on a déjà parlé du fait que ce type de festival vous permettait de faire des rencontres avec d'autres artistes, mais aussi des rencontres avec le public. Et qu'est-ce que vous attendez peut-être justement de ces rencontres avec le public ? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme retour ? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ou que vous attendez ?
Au final, ce n'est pas quelque chose que je crains ou que j'attends. C'est plus que grâce à cette exposition, notre photo va pouvoir être vraiment vue. Et donc, on a peut-être une chance, nous, en tant qu'artistes, de pouvoir donner cette émotion qu'on a ressentie en faisant la photo. Et voilà, maintenant, on va vraiment être confronté au jugement des gens, positifs ou négatifs, sur cette photo. Et on en a l'opportunité, ce qui n'est pas toujours facile quand on n'est pas exposé ou quelque chose comme ça. Ici, c'est beaucoup de monde qui va être touché. Donc, c'est un défi un petit peu.
Ouais, c'est pas toujours facile, j'imagine, quand on est jeune et qu'on démarre dans notre art. Justement, Anthony Spiegeler, vous avez fait vraiment appel aux étudiants, vous leur avez demandé qu'ils proposent des choses, que ce soit des étudiants ici en secondaire ou aussi des étudiants universitaires.
En fait, principalement, il y a trois écoles d'art qui sont touchées dans le cadre de ce festival. Il y a la Cambre, donc la partie art visuelle de la Cambre. Il y a l'INRACI pour la partie photographie. Et il y a l'Académie Royale des Beaux-Arts, donc, qui est située rue du Midi, qui participe en deux temps. Donc, premier temps, c'est une exposition de peinture. Donc, l'atelier de peinture participe. Et puis également, les étudiants en architecture d'intérieur participent à la scénographie d'une exposition qui se fera au sein de notre espace muséal au sein de l'ULB, donc la salle à l'IND. Mmh. Donc, ils ont repensé complètement l'espace dans cette occasion-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, on a contacté les différents chefs d'atelier pour essayer de pouvoir prendre la température, voir si c'était intéressé par ce type de partenariat, se dire également qu'on est dans une réflexion sur un rapprochement. Vous parliez d'un rapprochement entre la ville et l'ULB, mais il y a aussi un rapprochement entre les écoles d'art et les universités. Et donc l'idée, c'était de se dire qu'aujourd'hui, il y a des théoriciens, des praticiens, mais que tout ça commence vraiment à se mélanger de plus en plus et que ça donnait la possibilité à ces artistes d'exposer. Alors, pour l'INRACI, c'est plus simple parce que j'enseigne également l'INRACI, donc j'ai pu travailler avec mes élèves directement. Mais pour le reste, ce sont évidemment les chefs d'atelier qui ont pu vraiment garder la main et maîtriser complètement l'ensemble du projet.
Est-ce que vous avez été surpris par l'engouement, par les réponses de ces jeunes artistes ?
Oui, alors vraiment surpris parce qu'il y avait énormément de propositions. Il y avait beaucoup de projets qui ont été remis. Il y a eu aussi des choses qui n'étaient pas faisables, simplement parce qu'à l'université, on n'expose pas comme dans une galerie ou comme dans un musée. Donc il a fallu faire aussi en fonction des lieux. Parce que le jeu vraiment du festival, c'est pas de simplement se placer dans des salles d'exposition. Il y en a évidemment, mais ce n'est pas l'objet principal du festival. C'est aussi d'impacter les lieux, c'est d'être présent dans des lieux de déambulation quotidienne et de pouvoir se dire que notre parcours sur le campus va vraiment évoluer, changer grâce à ces œuvres d'art.
Et d'ailleurs, vous avez aussi sorti des collections de l'ULB qui ne sont pas souvent exposées. On a été chercher un peu des richesses qu'on ne montre pas souvent.
C'est l'objet, vu qu'en fait, notre intérêt, c'est de faire un focus sur l'université, de dire qu'on est également présent sur la cartographie culturelle de Bruxelles. Eh bien, je pense que quand on en parle simplement entre amis, entre professionnels, entre spécialistes ou même entre amateurs, on ne se dit pas qu'à l'université, il y a une richesse, qu'il y a une grosse collection, qu'il y a plein d'œuvres d'art. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de pièces dans cette collection. Et donc, l'intérêt, c'était un peu retracer pas l'ensemble de l'histoire de l'art, parce que c'est un peu plus modeste que ça tout de même, mais se dire qu'on pouvait retracer un fil qui était pertinent avec des sections qui étaient liées à l'abstraction lyrique, à l'abstraction géométrique, au réalisme, et tout cela en creux du XXe et du XXIe siècle.
D'accord.
Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.
Vous êtes toujours dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, on parle du festival Bruxelles Libre Culture, un festival qui commence ce soir et jusque fin mars sur le campus du Solbosch, donc de l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles. Un festival qui mêle donc des jeunes talents, mais aussi des artistes plus confirmés. Un festival qui vise à accueillir tous les publics, les publics du campus, les publics universitaires, mais aussi les publics de la ville de façon générale. Et alors, pour cette deuxième partie d'émission, on reçoit aussi par téléphone Mario Ferretti. Mario Ferretti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes artiste sculpteur et vous participez au parcours sculpté donc, qui va être présenté pendant tout le mois de mars sur le campus de l'ULB. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des œuvres, de vos œuvres qui seront exposées sur le campus ?
Oui, donc c'est des œuvres. Donc, moi, je travaille le bois et le métal. Mm-hmm. Donc je fais référence au végétal, mais je transpose ça en matériel mécanique. Donc il y a des assemblages, mais qui font aussi référence à l'archéologie. Et c'est des nouvelles pièces que je vais montrer.
Qu'est-ce que ça vous inspire d'exposer sur un campus universitaire ? Est-ce que c'est un lieu un peu particulier pour vous ? Ou alors vous êtes habitué à ce genre de lieu dans la ville
En fait, moi, je travaille normalement beaucoup pour l'intérieur. Je travaille rarement pour l'extérieur. Donc là, c'est un peu différent pour moi parce qu'il y a on est dans un espace beaucoup plus vaste.
La particularité de ce festival Bruxelles Libre Culture, c'est que il y a des artistes confirmés qui exposent, mais aussi des jeunes étudiants. Est-ce que pour vous, il y a un échange qui peut se faire, un partage qui peut se faire avec ces jeunes ?
Oui, bien sûr. Comme moi, j'ai un boulot personnellement qui s'expose plus en galerie. Donc pour moi, c'est intéressant de rencontrer un public que je n'ai pas l'habitude de rencontrer. Donc le public est universitaire. Bon, tout le monde ne se déplace pas forcément dans les galeries. Donc c'est beaucoup plus riche pour moi de toucher beaucoup plus de monde comme ça.
Et c'est
un endroit où j'avais déjà exposé plusieurs fois à la salle EMD, mais donc à l'intérieur. Et donc cette fois-ci, c'est intéressant pour moi de me confronter au jardin et à l'espace public.
Mais d'ailleurs, Anthony Spiegeler, ici, on voit que c'est un festival qui, du coup, sera très accessible aux étudiants. C'est un public qui... Est-ce que c'est un public qui se déplace beaucoup dans les musées, qui va voir beaucoup d'expositions, ou justement, ça peut être l'occasion de lui amener de la culture directement où il est.
Je dirais qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un public de curieux qui est habitué à Bruxelles, peut-être même les Bruxellois au sens large, mais il faut savoir que sur le campus, il n'y a pas que des Bruxellois, il y a aussi des personnes qui codent, qui découvrent Bruxelles dans le cadre de leurs études. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on a également créé des partenariats avec le musée d'Ixelles et avec les musées royaux des Beaux-Arts, afin de pouvoir justement placer des vignettes autocollantes sur le campus qui reproduisent des œuvres de leur collection. Donc on partait du principe que les étudiants ne connaissent pas l'ensemble des collections de nos musées et que donc on pouvait essayer de faire sortir les œuvres de ces collections pour les intégrer partout sur le campus, donc pour pouvoir vraiment les confronter à ces œuvres.
Oui, Martin Pilette, vous confirmez peut-être que... Est-ce que vous allez, vous, en tant que jeune, beaucoup dans les musées, voir d'autres choses, d'autres galeries à Bruxelles ou pas nécessairement?
J'avoue justement que je ne prends pas vraiment le temps. Et si j'avais un campus comme l'ULB, je trouvais ça vraiment chouette d'avoir plein d'œuvres exposées. On est obligé d'aller dans ce campus un petit peu tout le temps, donc de vraiment les voir comme ça, que l'art s'amène à nous sans que vraiment nous on doive y aller. Je pense qu'en tant que jeune, c'est vraiment chouette d'avoir cette organisation, donc vraiment le...
Où tout est rassemblé.
Voilà, tout est rassemblé, on ne doit pas vraiment chercher ou prendre du temps, tout est là à disposition et on peut se balader comme ça en voyant de l'art partout, c'est vraiment chouette.
Mario Ferretti, vous confirmez pour vous que c'est important de mettre les œuvres à disposition. Pour un artiste, c'est important qu'elles soient vues et de les mettre vraiment à disposition et que ce ne soit pas la démarche de la personne qui doit chercher vos œuvres.
Oui, bien sûr. Et le but, c'est aussi de leur donner envie après de suivre le travail et alors de venir voir les expos personnelles dans les galeries.
Ouais, et de creuser par la suite un peu plus, quoi.
Oui, bien sûr.
Bah en tout cas, Mario Ferretti, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Je propose qu'on vous laisse, mais on retient en tout cas que vos œuvres seront exposées sur le campus dans ce fameux parcours sculpté, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, merci beaucoup en tout cas.
Oui, merci.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais je voudrais, avec tous les deux, pointer quelques expositions importantes, quelques événements que vous voudriez vraiment faire ressortir, parce que la programmation, elle est très vaste, elle est très riche. Alors, peut-être l'un et l'autre, est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous nous conseilleriez, qu'il faut vraiment aller voir, des choses à ne pas rater ? Anthony Spiegeler.
Dans un premier temps, ce lundi, c'est la grande soirée d'inauguration. Donc à partir de 18h, il faut retenir que la soirée est libre. Rendez-vous au bâtiment K afin de découvrir différentes performances, mais aussi par l'intermédiaire d'un parcours itinérant, donc d'un vernissage itinérant, on pourra voir l'ensemble des expositions qui sont prévues sur le campus. Et il y aura de la musique, il y aura tout, en tout cas pour organiser un événement festif ce lundi. Alors après, mercredi 7 mars, il y aura également un Kids Day, donc une journée qui sera prévue pour les enfants. Donc le matin, on travaille plutôt avec des écoles, mais l'après-midi, vous pouvez également venir sur le campus pour découvrir cela. Il y aura un fascicule didactique qui sera présent sur le site pour pouvoir se renseigner et voir quels sont les différents types d'interactions que l'on peut faire. Alors peut-être juste pour pointer quelque chose, se dire que le festival existe aussi notamment grâce à de nombreux partenariats. Donc on a voulu sublimer le monde associatif qui organise au sein de l'université beaucoup d'activités culturelles. Et donc on a travaillé notamment avec le Cercle PAC qui organise le Théâtre Ouvert de Bruxelles et le Cercle des Sciences qui organise le Festival du Film Scientifique de Bruxelles. Et donc on reprend déjà deux festivals dans ce grand festival.
Oui,
et donc cette programmation, il faut se dire que tous les soirs il y a soit une pièce de théâtre, soit un film qui est projeté. Donc non seulement il y a des activités qui se font la journée, des activités permanentes, mais il y a aussi des activités ponctuelles et on arrive à un peu plus de 50 activités déjà qui sont prévues sur l'ensemble du mois de mars.
Et l'objectif, ce serait d'en faire, j'ai vu, une biennale, donc que ce soit quelque chose de récurrent.
C'est-à-dire qu'actuellement, on fonctionne à l'aveugle, donc on ne sait pas spécifiquement quel est notre public. On sait que notre public captif, c'est la communauté universitaire, mais on souhaiterait tout de même que l'ensemble des Bruxellois viennent sur le campus et que ça devienne vraiment un rendez-vous qui s'inscrirait dans le cadre d'une biennale, en effet.
Un lieu où les gens se croiseraient et se rencontreraient pour de vrai, on va dire.
Voilà.
Alors, Martin Pilette, vous, il y a évidemment l'exposition des étudiants de l'INRACI, l'exposition photo, l'exposition diversité. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez pointer qui vous ont plu dans le programme?
Ce qui m'a plu, c'est vraiment la diversité de ce projet en entier. Il y a, comme monsieur l'a dit ici, plus de 50 activités différentes. Et donc, je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des expositions, quoi, ils ont vraiment le choix ici de se perdre un petit peu partout et de voir par quel art ils sont touchés. Spécifiquement, il y a vraiment plein d'opportunités différentes. Donc vraiment de savoir un petit peu ce qu'on aime bien, de se poser peut-être aussi une question sur la diversité. Qu'est-ce que c'est la diversité pour nous-mêmes en tant que spectateurs de tout ça. Donc je pense que y a vraiment beaucoup de possibilités en allant voir cette exposition.
Oui, avec un thème évidemment qui touche, enfin au cas qui peut toucher tout le monde.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on parlait de cet échange avec les artistes. Il y a aussi des initiations, par exemple. J'ai vu des initiations à l'art urbain, au street art, etc. Donc il y a quand même toute une partie qui est axée sur la formation ou la rencontre, en tout cas.
En fait, il y a des rendez-vous qui sont prévus dans le cadre justement d'activités de street art. Donc il y a d'autres artistes qui vont également faire du street art sur le campus. Et donc, comme ils seront présents à des moments bien précis, on laisse la possibilité aux jeunes de venir les rencontrer, peut-être même aux moins jeunes qui sont intéressés par le street art, de les rencontrer, de poser des questions et de voir un petit peu quelle est leur démarche. Alors après, toujours dans ce cadre-là, il y a les espaces de libre expression qui sont présents sur le campus, et donc on peut prendre des bons pour pouvoir justement pulvériser sur différentes toiles, et donc celles-ci sont accessibles, elles sont en libre accès dans le cadre du festival aussi. Donc on peut s'essayer au street art.
Ah oui, donc
sur
chacun
le campus
pourra venir s'exprimer sur cette toile.
En tout cas, essayer de s'exprimer, oui,
voilà.
Tout à fait.
Et on sait, alors on a dit tout à l'heure avec Denis Meyer, lui aura différents endroits sur le campus où il s'exprimera, où il reprendra des citations, dont des citations qui ont été proposées d'ailleurs par le Centre d'Action Laïque, mais donc qui se retrouveront à différents endroits du campus. Avec, j'imagine, la richesse qu'après ces citations vont rester certaines sur le campus ou pas.
Oui, c'est l'intérêt, c'est de se dire qu'il y a eu vraiment un gros travail en amont pour sélectionner des citations, de se dire qu'on avait véritablement envie de laisser une trace, parce que, vous savez, à l'université, il y a des auditoires qui portent des noms, il y a des rues qui portent des noms, et en fait, les étudiants ne savent plus vraiment qui c'est, ou en fin de compte, quelles sont les actions que ces personnalités ont portées. Donc, via cette citation, on essaie également de faire un petit peu de pédagogie.
Oui, super. Bah en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir parlé de ce festival. Je vous redonne quelques informations pratiques. Donc, Bruxelles Libre Culture, ça se passe sur le campus du Solbosch à XL, donc sur le campus de l'ULB. Ça démarre dès ce soir. Il y a la Museum Night Fever et il y a des activités dans le cadre de la Museum Night Fever sur le campus. Ça se passe jusqu'au 30 mars. On peut retrouver toute la programmation complète sur le site, donc www.festivalblc.be. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci aussi à Denis Meyers et Mario Ferretti qu'on a eu au téléphone. Et avant de nous quitter, une nouvelle rubrique dans votre émission. Nous allons parcourir à présent avec Sandra Evrard, rédactrice en chef d'Espace de Liberté, le sommaire du dernier numéro. Sandra Evrard, bonsoir.
Bonsoir Vincienne.
Vous venez donc nous présenter le numéro de mars d'Espace de Liberté, le magazine publié par le Centre d'Action Laïque, un numéro qui consacre son dossier au sexisme.
Oui, en effet, donc notre dossier du mois de mars surfe sur la thématique de la journée des droits des femmes du 8 mars, avec comme fil rouge les risques de sexisme institutionnalisé. Alors si vous prenez la vie d'une femme depuis sa naissance jusqu'à un certain âge, celle-ci est finalement ponctuée de freins à l'égalité. Cela part des réactions au sein du monde du travail lors de l'annonce d'une grossesse, à l'attribution du nom de famille, à l'éducation qui est encore fort centrée sur une répartition des soi-disant rôles entre filles et garçons, aux réalités familiales en cas de divorce, où les femmes sont souvent lésées, du moins dans le cas de figure où elles ont arrêté de travailler ou l'ont fait à mi-temps lorsque leur mari faisait carrière durant leur vie commune. Alors au bout du compte, tous ces éléments font qu'une femme subit encore différentes formes de sexisme, d'autant plus parce que le prisme du genre n'est pas encore appliqué dans l'ensemble des politiques publiques et institutionnelles, comme cela devrait être le cas.
Alors, on voit qu'il y a plusieurs thématiques vraiment intéressantes qui sont abordées dans ce dossier. Mais est-ce que vous pourriez pointer pour nous un article, une thématique qui ressort particulièrement dans le dossier ?
Oui, alors une rencontre intéressante dans ce dossier, c'est celle avec une nouvelle association qui s'appelle Femmes and Law. Elle réunit plusieurs avocates qui souhaiteraient faire valoir que le genre n'est pas assez pris en considération au sein des palais de justice. Donc ces avocates dénoncent un certain sexisme dans leur profession, mais aussi dans l'application même de la législation envers les justiciables. Un exemple, celui de la pension alimentaire qui n'est plus prise en considération de la même manière depuis l'instauration de la loi de 2007. Sur le divorce, mais aussi le manque de prise en considération importante de l'impact des violences intrafamiliales dont sont victimes les femmes. Alors on entend souvent au sein des palais de justice que madame doit prendre sur elle, même si monsieur a été violent, car elle doit faire la part des choses entre la violence envers elle et envers son enfant. Et que, au nom du principe du droit de l'enfant à maintenir un lien avec ses deux parents, d'autres droits ne sont pas assez pris en considération. Pourtant, de nombreux rapports de psychologues et même d'institutions comme la Fédération Wallonie-Bruxelles met en avant les conséquences néfastes pour les enfants eux-mêmes de cette violence intrafamiliale. Et là encore, les avocates de Femmes and Law parlent de biais de la justice.
Oui, donc Femmes and Law, une association à suivre. Alors, si vous voulez vous procurer ce numéro où on peut retrouver donc toute une série d'articles sur cette question du sexisme, mais aussi d'autres rencontres et d'autres nombreux articles intéressants. Vous pouvez donc vous rendre sur le site internet du Centre d'Action Laïque, www.laïcité.be. Donc vous pourrez commander ce dernier numéro d'Espace de Liberté. Sandra Evrard, merci. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, à 20h sur la première, pour aborder une autre thématique liée aux droits des femmes, puisqu'on parlera du plaisir féminin. Voilà, belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.